Remercions notre Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons le texte qui se trouve dans Luc chapitre 6. La semaine dernière, nous avons vu les 11 premiers versets. Et nous avons parlé du jour du repos, jour qu'il faut mettre à part pour venir louer, adorer notre Seigneur, jour où on peut faire ce qui est bien, et quoi de mieux que de venir adorer Dieu avec des frères et des sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous voyons les versets 12 à 26 de ce chapitre 6 de l'évangile de Luc, et aujourd'hui nous voyons que celui qui met sa foi en Jésus a une nouvelle condition, et cette nouvelle condition est que cette personne est heureuse, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit dans ce passage. Et puisqu'il le dit, je le crois. Et à nous aussi de mettre notre foi dans cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui dit que vous êtes heureux, vous qui avez mis votre foi en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous inviter à la lecture de ce passage. Nous lisons les versets 12 à 26 de Luc, chapitre 6. Il est dit que, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Voilà, courbons nos têtes pour la prière. Nous te remercions, notre Dieu, parce que déjà dans un premier temps, nous avons pu élever nos voix pour te louer, pour te célébrer et te remercier parce que tu as suscité en nous la foi. Et nous voulons, Seigneur, te bénir parce que tu es un Dieu digne de confiance. Et nous l'avons dit, nous l'avons chanté, nous l'avons lu. Oui, et comme le psalmiste dit, oui, moi j'ai confiance en mon Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous te prions de nous sanctifier par elle. Et nous te demandons, Seigneur, que cette parole puisse continuer cette œuvre de purification en nous jour après jour. Qu'elle continue à nous faire du bien. Et donc, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous te demandons de soutenir ceux qui sont faibles, d'aider ceux qui sont découragés, de bénir ceux qui passent vraiment par des moments difficiles, tu les connais, que ta parole puisse leur faire du bien. Nous te remettons ce temps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, une nouvelle fois, je vais dire, Luc met l'accent sur le fait que Jésus était un homme de prière. Alors, je dis une nouvelle fois parce que là, nous sommes au chapitre 6, mais quand on revient en arrière, le nombre de fois que Luc souligne que Jésus priait, que Jésus se retirait, il allait à la montagne et ou dans les lieux déserts pour prier. Et ce n'est pas fait pour rien. Jésus avait constamment besoin d'être avec son Père. Alors, si Jésus, le Fils de Dieu, avait constamment besoin d'être avec son Père, ô combien nous aussi, nous avons besoin d'être avec notre Père aussi. Puisqu'il a dit, après sa résurrection, il a dit à Marie, « Va vers mes frères, dis-leur que je vais vers mon Père et votre Père. » Jésus passait du temps dans la prière. Et nous avons déjà besoin de retenir cela, qu'en tant que disciples de Jésus, nous avons besoin de passer du temps aussi dans la prière comme notre Seigneur. Donc le Seigneur Jésus, il se retire, il se retrouve là sur la montagne et dit pour prier parce qu'il va prendre une décision importante. Il va choisir parmi tous ses disciples, il va en choisir 12 peut-être pour faire référence aux 12 tribus d'Israël. En tout cas, il en choisit 12. Et il sait aussi que parmi les 12, il y aura un qui sera un traître. Donc, il fallait qu'il trouve certainement en Dieu la force de choisir aussi celui qui allait le trahir. Mais il savait aussi qu'il fallait que s'accomplissent les Écritures. Et parfois, nous sommes amenés à faire des choses nécessaires, mais parfois difficiles. Et nous avons besoin de trouver en Dieu la force pour pouvoir faire cette chose difficile qui s'impose à nous. En tout cas, le Seigneur a choisi ces hommes. Et je parle de Judas, le traître, mais il y en a 11 autres. Et puis, il y en a un autre qui va s'ajouter, c'est l'apôtre Paul. Et parmi ces 11-là, il va les prendre avec lui pour les former, pour les préparer en vue du ministère qu'il a pour eux, pour la suite, lorsque lui, il va remonter auprès du Père, il va les laisser et il va leur dire dans Actes, voilà, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ces apôtres, là, Judas n'est plus là, parce qu'il s'est pendu. Ils vont recevoir l'Esprit de Dieu, qui va venir habiter maintenant en eux et éternellement, comme pour tous les autres disciples, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Et ils vont remplir ce ministère. Ils vont annoncer l'évangile, dire que le royaume de Dieu est proche. Donc, le choix de ces 12 apôtres, donc parmi tous les disciples, donc les disciples, ce sont ceux qui suivent un maître. C'est ceux qui ont reconnu que Jésus était un maître, quelqu'un qui pouvait enseigner et de qui il pouvait recevoir des choses. Alors, il y a ceux qui ont mis donc, leur foi en Jésus, dans cette définition, mais on voit en lisant les évangiles qu'il y a des disciples, des gens qui suivaient Jésus, puis au bout de certains temps, l'ont abandonné. Là, ça nous questionne aussi. Donc après, à nous, chacun dans notre cœur, de nous poser la question du genre de disciple que nous sommes. Est-ce que nous sommes un disciple qui est prêt à suivre Jésus et comme il le dit, même si on sera haï, même si on sera persécuté, on va continuer à le suivre. Parce que comme a dit Pierre, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ou bien est-ce que nous sommes des disciples qui suivons Jésus juste parce que nous avons besoin de pain et de quoi manger? Donc il choisit parmi ses disciples 12 qu'il va appeler apôtres, qui veut dire envoyés. Il va donc les envoyer pour annoncer que le royaume de Dieu est proche. Ses disciples, mais aussi leurs compatriotes, avaient une certaine conception de ce qu'est une vie réussie, une vie bénie par Dieu. Pour eux, une personne heureuse, une personne bénie par Dieu se reconnaissait par sa situation sociale. Celui qui est riche est béni, il est heureux, et le pauvre est un malheureux. Il est peut-être maudit. S'il est pauvre, c'est peut-être parce qu'il est maudit. Et c'est vrai que tout petit, on entend ça aux Antilles, on parle de voilà, la petite malheureuse. Pour parler d'une, bon, c'est souvent d'une dame qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a un travail modeste et voilà, qui s'occupe assez souvent seule de ses enfants. Et on va la qualifier d'une petite malheureuse. D'où aussi peut-être cela. Et parmi les disciples de Jésus, beaucoup étaient des hommes et des femmes effectivement modestes, des gens sans instruction. Et même dans Actes chapitre 4, lorsque les pharisiens, les scribes, etc., ont vu Pierre et les autres, ils leur ont dit, voilà, mais on vous interdit de parler au nom du Seigneur Jésus. Et là, vous continuez à le faire. Et le texte dit qu'ils ont reconnu que ces hommes-là étaient avec Jésus. Des hommes sans instruction. Donc, beaucoup de ceux qui suivaient Jésus, beaucoup des disciples, étaient effectivement des gens pauvres, des gens modestes. Mais il n'y avait pas que des personnes de condition humble. Il y avait aussi des personnes riches. Certains sont devenus pauvres aussi parce qu'ils ont fait le choix de quitter leur travail. D'autres sont devenus beaucoup plus modestes parce qu'ils ont aussi perdu leur travail à cause de leur foi en Jésus. Donc, les personnes qui ont fait le choix de suivre Jésus et qui sont de conditions modestes ou qui le sont devenues, sont-elles malheureuses pour autant? Et je peux même que ceux qui ont fait le choix de suivre Jésus-Christ en devenant son disciple se mettent à analyser leur vie personnelle pour la comparer à celle d'une personne qui n'a pas foi en Dieu. Et puis finir par se poser ces questions, mais est-ce que vraiment je suis heureux? Est-ce que j'ai fait le bon choix de suivre Jésus, d'accepter cette vie? Est-ce que j'ai fait le bon choix de ne pas faire comme un tel ou un tel? Puisque je n'ai pas tel bien matériel que possède par exemple ce non-chrétien, cet inconverti, est-ce que je suis plus malheureux que lui ou qu'elle? Dans le psaume 73, le psalmiste se posait ces questions. On peut le lire ensemble. Hein, le psaume 73, versets 1 à 15. Alors, je remercie Pierre parce qu'il me laisse un peu plus de temps. Donc, on peut prendre le temps de lire. Le psaume 73, versets 1 à 15. Ce psaume d'Asaph, il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. » Et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » On va s'arrêter là, on va reprendre ce texte un peu plus tard. Donc là, vous voyez, Asaph, il dit, voilà, que les méchants, toujours heureux, hein, ou toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Donc le psalmiste, il avait le sentiment que les méchants, donc ceux qui ne croyaient pas en Dieu et qui faisaient ce qui était mal, il pensait que ces personnes étaient toujours heureuses, que leur richesse ne faisait que s'accroître. On pourrait même traduire le verset 13 ainsi. Quand le psalmiste dit, il dit, c'est donc en vain que j'ai fait le choix de me soumettre à la parole de Dieu pour avoir une vie pieuse. Ai-je fait le bon choix d'une vie sainte, une vie qui soit à la gloire de Dieu? Et le prophète Jérémie, au chapitre 12, a eu aussi cette même expérience de cette perplexité, tous ces questionnements, quand il dit dans les versets 1 et 2, il dit « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. » Il dit « Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? » Telle est peut-être la question que vous vous posez. Vivez-vous dans la perplexité comme ces hommes de Dieu? Et en comparant votre vie à celle de vos compatriotes ou de vos amis, est-ce que le doute s'installe dans votre cœur au point de remettre en question votre choix de vouloir suivre Jésus pour être son disciple, ayant reconnu que c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Pierre, Jacques et Jean, ainsi que Matthieu, ils ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Un jour, Pierre a même dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous ?» Là, c'était après la rencontre avec le jeune homme riche, puisque le Seigneur Jésus dit mais qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors pour Pierre, entendre Jésus dire ça, c'était vraiment comme une bombe. Comment est-ce possible? Mais lui, il est béni. Regarde, il est riche. Alors, et nous avons tout quitté, mais qu'en sera-t-il pour nous? Et par moments, nous pouvons nous poser ces questions, de voir qu'on marche fidèlement avec le Seigneur, on continue à avancer avec lui, et notre vie paraît un peu plus triste que d'autres. Et le Seigneur Jésus, il a répondu à Pierre dans Matthieu 19, lorsqu'il le rassure dans ce texte-là, parce que Pierre justement commence à se poser plein de questions. Le Seigneur lui dit que lorsqu'il sera assis sur le trône de sa gloire, ceux qui parmi eux l'avaient suivi, donc parmi les 12 là, avec Judas en moins, ils auront 12 trônes et ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Donc, il y a 12 trônes réservés pour les apôtres de Jésus, pour juger le peuple d'Israël. Alors, peut-être que ce 12e, est-ce que c'est Matthias que les apôtres ont choisi, parce que Judas, il a abandonné. Voilà, il fallait remplacer Judas. Donc, Pierre, dans Actes, au premier chapitre, il y a eu cette question qui était posée. Ou bien est-ce que cet 12e apôtre, celui qui remplace Judas, est-ce que c'est l'apôtre Paul? Là est la question. Et dans ce passage, le Seigneur dit à ses disciples qu'ils sont heureux. Contrairement à ceux qui ont préféré garder leur richesse ou rechercher la gloire des hommes au lieu de rechercher la gloire de Dieu, ses disciples sont heureux. Alors, j'aimerais bien que nous relisions les versets 20 à 23. Et le Seigneur Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Dans le royaume de Dieu, je dirais que l'échelle des valeurs est inversée. Les premiers aux yeux du monde seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Celui qui est heureux, d'après les définitions qu'on peut trouver dans plusieurs versions, c'est celui qui est approuvé par Dieu et reçoit sa bénédiction. Celui qui est heureux, c'est celui qui jouit du bonheur et qui en donne. Et tout cela nous fait penser que la personne qui entend l'appel du Seigneur Jésus-Christ et qui y répond en acceptant Christ dans son cœur comme sauveur et Seigneur, comme Pierre l'a fait, Matthieu et les autres, alors cette personne est heureuse. Elle est heureuse parce que le royaume de Dieu est à elle. Elle est heureuse parce qu'elle sera rassasiée et sera dans la joie. Elle est heureuse parce que sa récompense sera grande dans le ciel. Déjà, le verset 20 nous dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, c'est le texte parallèle, dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume de Dieu ou des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Donc c'est cette précision que nous donne Matthieu. Donc pour nous montrer que ce n'est pas la condition sociale qui conditionne notre entrée dans le royaume de Dieu. Le Seigneur ne dit pas que ce sont les pauvres sur le plan matériel qui entrent dans le royaume de Dieu et que les riches sont perdus. Et beaucoup de textes nous montrent cela. Il ne parle pas là de pauvreté sur le plan matériel. Et comme le dit Matthieu, il parle de pauvre en esprit. Zachée, c'était un homme riche, mais qui a reconnu sa pauvreté. Et le Seigneur lui a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Matthieu, là, qui était publicain, aussi, lorsqu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il a fait un festin, il a reçu du monde dans sa maison. Ça sous-entend que c'était un homme qui était assez riche. Et il a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Mais il est vrai que le Seigneur a dit qu'il est plus difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 18, verset 24, après donc le jeune homme riche qui a demandé, mais que faut-il faire pour avoir hérité du royaume de Dieu? Et le Seigneur lui dit plein de choses à faire. Il lui dit, mais j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Alors le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Va avant ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et le texte nous dit qu'il est reparti tout triste. Et c'est là que Jésus dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et dans un autre texte, dans Marc, il y a une petite précision qui est donnée, où Jésus va expliciter un peu sa pensée. Il va dire qu'il est plus difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour dire, ce n'est pas tellement le fait d'être riche, c'est le fait de se confier dans les richesses qui nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'au lieu de mettre sa confiance en Dieu, on met sa confiance dans la richesse. Donc les pauvres, ici, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres, qu'ils sont démunis, car vivant sans Dieu ou loin de lui. Ils reconnaissent leur pauvreté. Et comme cet homme qu'on a lu ce matin, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Ou bien comme Pierre qui dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. C'est des personnes qui reconnaissent leur état devant Dieu, qui reconnaissent qu'elles sont pécheresses et qu'elles sont misérables et qu'elles ont besoin de Jésus-Christ. C'est de cette pauvreté que le Seigneur parle, ceux qui sont pauvres en esprit. Et c'est vrai que lorsqu'on est riche, voilà, Dieu, on n'en a pas besoin, on a tout ce qu'il faut. On a l'argent, on a ce qu'il faut. Voilà, on n'a pas besoin de prier pour demander à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Parce qu'on sait qu'on l'aura déjà. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on voit que dans ces pays industrialisés, dans ces pays, entre guillemets, riches, est-ce qu'il y a combien qui sont vraiment qui sont au Seigneur? Qui remplit le plus les églises? C'est des personnes qui ont soit connaissent ou ont connu, ou même culturellement ont connu cette pauvreté, cette dépendance de Dieu, qui fait que c'est dans leur gène, ils ont su qu'il faut qu'ils crient à Dieu pour leur nécessaire. Et qu'ils ont besoin de Dieu pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, etc. Et c'est aussi pour ça que dans ces pays riches, il y a une telle pauvreté sur le plan spirituel. Donc il faut, pour entrer dans le royaume de Dieu, dit le royaume de Dieu est à vous, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut reconnaître sa pauvreté. Il faut reconnaître qu'on a besoin de Jésus-Christ. Que l'on soit riche ou pauvre, ce n'est pas ça la question, c'est reconnaître son état devant Dieu et reconnaître qu'on a besoin de Jésus, que Jésus c'est lui le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Et le Seigneur Jésus-Christ disait à Nicodème, un pharisien qui est venu le voir de nuit, il lui dit, il faut naître de nouveau. Si vous ne naissiez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on voit bien que naître de nouveau, c'est passer de la mort à la vie. Et ça se passe au moment où on met sa foi en Jésus-Christ. Au moment où on dit, Seigneur, oui, je suis un homme pécheur et je me repens, je te demande pardon pour mes péchés. Jésus-Christ a pris sa vie, a donné sa vie pour moi à la croix. C'est à cause de moi qu'il est mort et je crois en lui. Je crois qu'en croyant en lui que j'ai la vie éternelle. Je reconnais que sans lui, je ne peux rien. Mais j'aimerais aussi parler de cette pauvreté. Je dirais que c'est une pauvreté choisie, voulue, à cause du royaume de Dieu. Et le Seigneur, là aussi, encourage ses enfants. Par exemple, Matthieu, il a fait le choix de quitter son travail. Pierre, il a quitté son travail. Zachée, voilà, il s'est appauvri en disant tout de suite au Seigneur, voilà, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Voilà, il s'est appauvri. Donc, lorsque on se donne à Jésus-Christ, on ne s'attache plus aux choses matérielles. On a un regard différent sur l'argent. On a un regard différent sur les biens matériels. Et ce bien matériel que Dieu nous donne, on le met au service de Dieu parce qu'on sait que c'est à Dieu. Et il faut qu'il y ait ce principe d'égalité. Et donc, il y a des personnes, des disciples du Seigneur Jésus, qui font le choix d'accepter cette pauvreté. Pauvreté sur le plan matériel, on l'a dit, sur le plan sentimental. Pauvreté sur, oui, est-ce que celui qui est marié est plus heureux que celui qui n'est pas marié? Celui qui a des enfants, est-ce qu'il est plus heureux que celui qui n'en a pas ou qui ne peut pas en avoir? Vous voyez, il y a plusieurs domaines où on peut connaître ce sentiment de pauvreté, où on dit, voilà, on n'a pas ou on a moins, on aimerait avoir, on a, etc. Cette pauvreté, elle est là aussi. Et le Seigneur dit, puisque tu as accepté, puisque c'est ta condition, ben n'oublie pas cela, tu es heureuse. Parce que tu as fait le choix de la fidélité, parce que tu as fait le choix de me suivre, et que tu te prives de telle ou telle chose, ben n'oublie pas cela. Le royaume de Dieu est à toi, et tu es heureuse, parce que le royaume de Dieu est à toi. Le texte nous dit aussi que nous serons rassasiés et nous serons dans la joie, au verset 21. Jésus, donc, s'adressant à ses disciples, leur dit donc qu'ils sont heureux, parce que même s'ils ont faim, ou qu'ils pleurent maintenant à cause de son nom, le jour viendra où ils trouveront la consolation, la paix et la joie. Et même dès maintenant. C'est vrai qu'il y a un salut à venir, où nous serons dans la félicité, nous serons dans la paix, dans la joie, nous allons connaître cette joie parfaite. Mais déjà dès maintenant, le Seigneur dit que nous pouvons être, il parle au futur, là. Donc c'est quelque chose qui est à venir. Mais lorsqu'on voit la vie des disciples, quand on voyait dans les actes des apôtres, ou l'enseignement que donnent les apôtres. Il dit, voilà, combien les disciples étaient persécutés à cause de leur foi, combien ils souffraient. Et le Seigneur dit, en Christ, vous avez trouvé la paix, vous avez trouvé la joie, vous avez trouvé la consolation. Pourquoi ? Parce qu'on a tout pleinement en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 10. Ce qui fait notre joie, ce qui fait notre paix, ce qui fait là où nous pouvons trouver la consolation parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et le Seigneur, il est celui qui apporte la joie, il est celui qui apporte la paix au quotidien, puisque nous lui appartenons. Il nous apporte toutes ces choses-là. Et donc, nous ne pouvons pas, je pense à ce texte de Néhémie, où les gens, en lisant la parole de Dieu, ils étaient dans la peine. Et il dit, mais non, ne soyez pas affligés. La joie de l'Éternel sera votre force. Alors, oui, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Et lorsque on lit, par exemple, l'apôtre Pierre, il parle beaucoup des souffrances, mais il prend l'exemple de Jésus-Christ, il dit, mais regardez votre Seigneur, comment il a souffert. Donc, tenez bon. Et nous pouvons être dans la joie dès maintenant, parce que, c'est une sœur qui l'a dit, nous savons que notre salut est entre les mains de notre Seigneur, que nul ne peut nous arracher de sa main. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans Romains chapitre 8, on peut le lire ensemble, Romains 8, verset 35. Et c'est ça aussi qui fait notre joie, c'est là où nous pouvons trouver la paix et affronter les difficultés au quotidien, parce que nous savons que nous sommes heureux parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce qui fait notre joie. Dans Romains chapitre 8, verset 35, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. » Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, sachant tout cela, l'apôtre Paul savait, oui, il était un homme heureux. Parce que malgré toutes ses difficultés, il sait que rien ne peut le séparer de l'amour de son Seigneur. Donc l'amour de Christ doit nous encourager à la patience dans l'épreuve. Et malgré les difficultés, nous pouvons donc continuer à marcher fidèlement en ayant en vue l'éternité à venir, sachant que nous serons rassasiés et nous serons dans la joie. Mais dès maintenant, le Seigneur nous permet de connaître cette joie, de connaître ce contentement, hein, et de vivre en ayant les regards toujours fixés sur lui. Vous êtes heureux parce qu'il est dit, votre récompense sera grande dans le ciel. Le verset 23, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traite les prophètes. » Notre récompense sera grande dans le ciel. Et ça, c'est un encouragement aussi. Et le Seigneur Jésus, dans Apocalypse, il dit à chaque fois, « Celui qui vaincra, je donnerai. » Vous voyez ? Et celui qui vaincra, c'est celui qui reste fidèle à son Seigneur, qui, malgré les situations présentes qui sont difficiles, garde toujours les yeux fixés sur lui et continue à avancer malgré tout. Et dans 1 Pierre chapitre 4, alors j'ai cité Pierre tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12, Il dit, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Ça fait bizarre d'entendre ça lorsqu'on est dans l'épreuve, dans la difficulté. Hein. Mais c'est une réalité. Et il dit, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il ne faut pas trouver étrange d'être dans la fournaise, je dirais, c'est normal. Et en tant que chrétien, il y aura toujours, toujours des souffrances. Mais il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Notre souffrance, c'est la souffrance aussi du Seigneur Jésus-Christ. Et il a été vainqueur. Après, il dit, si vous êtes outragé, verset 14, pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous voyez ? Il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et les apôtres nous ont donné ces exemples-là lorsqu'ils étaient outragés, maltraités, persécutés. Ils étaient heureux lorsqu'on les mettait en prison, ils sortaient de prison, ils étaient dans la joie parce que c'était à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, si vous tenez ferme, l'épreuve de votre foi, il est dit dans 1 Pierre chapitre 1, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, aura, le texte nous dit, pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si vous tenez ferme, vous régnerez aussi avec le Seigneur, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Si vous tenez ferme, la couronne de justice vous sera réservée comme pour l'apôtre Paul. Le Seigneur, le juste juge, vous la donnera dans ce jour-là, car vous aurez aimé son avènement. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Il dit pour lui qu'il va recevoir cette couronne de justice et tous ceux qui auront aimé son avènement. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a cet encouragement à continuer, à persévérer. Tout ça parce qu'il y a cette base que le Seigneur dit, vous êtes heureux parce que vous êtes mes disciples. Et sachant que tout cela nous attend pour l'éternité, donc ne nous décourageons pas, ne vous découragez pas, mais soyez persévérants. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui, avec le découragement, etc., ils abandonnent. Donc il faut tenir. Courez vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, selon Philippiens 3, verset 14. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, « Ne perdez pas courage. » Il dit car même si votre homme extérieur se détruit, votre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'adresse, donc il a cette foule-là. Le texte nous dit qu'il s'adresse à ses disciples, mais il y avait là une foule de ses disciples et une multitude de personnes. Donc, à un moment, il s'adresse particulièrement à ses disciples. Mais au verset 24, il dit « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation, etc. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Et donc, dans cette foule-là, il y avait les disciples fidèles, beaucoup de conditions modestes. Mais dans cette foule, Il y avait aussi des personnes riches qui étaient là pour entendre. Et le Seigneur s'adresse aussi à ces personnes qui entendent ces paroles de malédiction. La question, c'est de savoir dans quel camp on est. Est-ce qu'on est dans le camp de ceux qui reçoivent les bénédictions ou est-ce qu'on est dans le camp de ceux qui reçoivent les malédictions, ceux qui dépendent de Dieu pour au quotidien, qui mettent leur confiance en Dieu, ou ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qui peuvent même venir à l'église juste pour entendre la bonne parole, et qui privilégient avant tout leur bien matériel. C'est à chacun de se poser la question dans quel camp il se trouve, à chacun d'examiner son cœur pour le savoir. Suis-je un disciple de Jésus qui accepte aussi la part de souffrance, mais le Seigneur m'a dit que je suis heureux parce que le royaume de Dieu est à moi, etc. Ou est-ce que je préfère vivre ma vie loin de Dieu et me contenter vivre le jour? Mais le Seigneur dit, voilà, vous êtes malheureux, même si vous ne vous rendez pas compte. Et j'aimerais terminer avec le psaume 73, revenir sur ce psaume-là. Qui, Asaph, il se posait pas mal de questions par rapport à la réussite des personnes riches, des méchants qui réussissaient dans leur voie. Et donc, on reprend à partir du verset 16. Alors, il dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà. Le psalmiste, lorsqu'il a pris le temps de réfléchir, de méditer sur les choses, comme il dit lorsqu'il est entré jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, donc revenir à Dieu, analyser les choses, il dit voilà, non, c'est être avec Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et nous on va dire être en Christ, être avec Christ, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et donc quand on analyse, on voit le sort des méchants. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont l'air bien, mais quel est le sort final des méchants? Ceux qui se confient dans les richesses. Alors il dit non, quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Que ça soit ça notre joie, que ça soit cela la source de notre motivation à continuer à servir notre Seigneur, puisque lui-même, il nous dit que nous sommes heureux, que le royaume de Dieu est à nous et que nous serons dans la joie, nous serons rassasiés et que notre récompense sera grande dans le ciel. Et donc, c'est tout cela que le Seigneur a en vue pour nous. Et comme David, même s'il nous arrive de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, alors comme David, nous pouvons dire, oui, nous ne craignons aucun mal, car nous savons que notre berger est là, il est là avec nous. Et nous pouvons dire comme lui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.